VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Niamey, bienvenue à notre journal et bonne année 2016. On commence par l'Afrique centrale. En RCA, les centrafricains attendent toujours les premières estimations des élections présidentielles et législatives de mercredi. Vu le nombre pléthorique de candidats, les opérations de déploiement du scrutin s'annoncent longues. Le point avec Tatiana Mosso, notre envoyé spécial à Bangui.
Tous les acteurs nationaux et internationaux se félicitent du bon déroulement des élections, et ce, sur l'ensemble du territoire. Cela relève quasiment d'un miracle, selon la MINUSCA et d'autres diplomates qui ont observé le scrutin. Toutefois, le vote n'a pas pu se dérouler dans certaines circonscriptions, a déploré ce jour l'ANE. Des incidents sans gravité ont été relevés à Paoua, dans le nord-est du pays, ou encore des échanges de tirs à Fatima, un quartier de Bangui, dans la nuit de mercredi à jeudi. Près de 2 millions d'électeurs devaient voter pour ce premier tour. Ils avaient le choix entre 30 candidats à la présidentielle et au moins 1300 pour les législatives. Avant le scrutin, certains s'attendaient à voir sortir en tête et en désordre Karim Mekassoua, Martin Ziguélé ou encore Anis et Georges de Loguélé. Mais les rumeurs déjà s'installent dans la capitale et font remonter les noms d'outsiders sérieux comme Touadéra ou encore Kolingba. L'autorité nationale des élections a 15 jours pour annoncer des résultats définitifs. Un deuxième tour serait alors prévu le 31 janvier. Tatiana Mosso, à Bangui pour VOA Afrique.
Amnistie en République démocratique du Congo à l'occasion du Nouvel An. Le président Joseph Kabila a gracié les membres du mouvement Bundu Dia Congo ainsi que les prisonniers en plus de 70 ans. Il a également réitéré son appel pour un dialogue politique national. Au Congo-Brazzaville voisin, dans son message de vœux du Nouvel An, le président Denis Sassou Nguesso a, lui, appelé la classe politique à faire preuve de haute maturité à moins de 3 mois du premier tour de la présidentielle. Mercredi, les autorités congolaises ont fixé au 20 mars le premier tour de la présidentielle qui était censé se tenir en juillet. Et puis au Rwanda, le président Paul Kagame a annoncé jeudi soir qu'il se représenterait à l'élection présidentielle de 2017 pour un troisième mandat, comme l'autorise la nouvelle constitution approuvée massivement par ses concitoyens lors du référendum du 18 décembre. Des précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Vous m'avez demandé de diriger à nouveau ce pays après 2017. Étant donné l'importance que vous y accordez, je ne peux qu'accepter, a-t-il déclaré lors d'un discours à la Nation délivré à minuit sur la télévision nationale. Lors du référendum, les Rwandais ont approuvé une révision de la Constitution devant permettre à Paul Kagame, 58 ans, de se représenter pour un nouveau mandat en 2017 et potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Le oui a obtenu 98,4% des voix, contre 1,6% au non. La révision constitutionnelle avait été sévèrement critiquée par les partenaires internationaux du Rwanda, États-Unis en tête, qui avaient appelé M. Kagame à quitter le pouvoir en 2017. Élu en 2003 et réélu en 2010, avec plus de 90% des voix à chaque fois, M. Kagame avait indiqué que sa décision de se représenter en 2017, date limite de son dernier mandat selon la constitution non révisée, dépendrait des résultats du référendum.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, dans son message de Nouvel An en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé avoir accordé des remises de peine partielle ou totale à 3100 détenus de la crise post-électorale. M. Ouattara a également réitéré sa volonté d'organiser un référendum constitutionnel pour 2016 et promis de lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Au Niger, l'opposant et candidat à la présidentielle Amadou Boubacar Sissé a été brièvement interpellé. Il a été entendu jeudi après-midi pendant plusieurs heures dans les locaux de la police à Niamey. Amadou Boubacar Sissé a été détenu juste au moment où il s'apprêtait à sortir pour déposer sa candidature au ministère de l'Intérieur, selon Ousseini Salatou, le porte-parole de l'opposition. La date limite des dépôts des candidatures pour le premier tour de la présidentielle du 21 février 2016 est fixée au 2 janvier 2016. Pour les perspectives de l'année 2016 au Niger, rejoignons notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
2016 sera une année électorale au Niger. Elle verra en effet une élection présidentielle avec plusieurs candidats, parmi lesquels le président sortant, dont le clan espère un passage dès le premier tour au soir du 21 février. Les mandats des parlementaires et des élus locaux seront également renouvelés. Le processus de la préparation de ces scrutins a été émaillé de contestations par les partis politiques de l'opposition notamment, qui soupçonnent le régime de manœuvres peu orthodoxes pour s'assurer un maintien aux commandes. Elle n'est pas, par exemple, trop sûre du fichier électoral. Elle estime aussi que le juge électoral est partisan. Toutes ces contestations ne présagent pas de meilleurs lendemains électoraux au Niger, selon le professeur Issoufou Yahaya, analyste politique.
La problématique, ce n'est pas en soi l'élection ou ce ne sont pas les élections, c'est les conséquences qui découleront de l'organisation des élections dans des conditions assez discutables. D'abord, le régime a eu presque 5 ans pour mettre en place un bon fichier consensuel. Il ne l'a pas fait, il s'est pris au dernier moment. Maintenant qu'on s'achemine vers les élections, on dit qu'il y a un fichier. Mais quel fichier? De tout temps, les élections ont été consensuelles. Le fichier électoral a été consensuel. Mais si les élections sont organisées dans les mêmes conditions qu'en Guinée, ça va déboucher sur des conséquences post-électorales plus néfastes qu'en Guinée et des conséquences à envisager au cas où ça serait, comme il a été dit ailleurs, un coup chaos. Alors un coup chaos dans les conditions actuelles, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour le Niger. D'autant que la communauté internationale est regardante de ce qui se déroule au Niger, actuellement au Niger. Donc, à un moment ou à un autre, je vois que le ton va monter pour ramener les responsables de la 7e République à cette table de discussion qu'ils refusent pas d'intégrer, mais d'offrir à l'opposition pour des raisons, on va dire, mesquines, pour des raisons personnelles.
Sur le plan sécuritaire également, le Niger sera en vue. Selon le professeur Issoufou Yahaya, le pays doit s'attendre davantage à une multiplication des assauts de la secte islamiste Boko Haram, apparemment acculée au Nigeria. Il doit surtout faire attention au niveau de sa frontière avec la Libye, bastion de l'État islamique.
La Libye est peut-être l'enjeu le plus important en 2016 avec la progression de l'État islamique. Au début, il cherchait à s'implanter, mais aujourd'hui, il s'est suffisamment implanté qu'il commence à progresser. Et je pense que l'Algérie est puissante, le Tchad est puissant, et que le petit bout de l'entonnoir, parce qu'on ne parle même pas de l'Égypte, le bout de l'entonnoir, c'est le Niger. Un peu le parent pauvre. Je pense que les petites bases françaises ou américaines, elles sont utiles pour l'instant dans le rôle qu'elles jouent de prévenir la montée en puissance de l'insécurité, pas pour le Niger, mais d'abord pour la France. Je pense que si le Niger veut prévenir, il serait mieux d'avoir un regard beaucoup plus critique, beaucoup plus avisé du côté de la frontière avec la Libye. Maintenant, il ne faut pas chercher à jouer un rôle dont on n'a pas les capacités. Et apparemment, c'est ce rôle que semble vouloir jouer le président de la République. Une sorte de leadership sous-régional alors qu'on n'a que des capacités réduites. Donc, il ne faut pas avoir, comme on dit, les œufs plus gros que le ventre. Il faut être réaliste et voir quel vrai rôle on peut jouer avec les capacités qu'on a. Je crois que c'est plus réaliste.
Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Conflit en Libye, l'émissaire de l'ONU, Martin Kobler, s'est rendu hier à Tchad, dans l'est du pays, pour essayer de convaincre le président du Parlement, reconnu par la communauté internationale et aussi des chefs de tribu, de soutenir un gouvernement d'union nationale. Selon l'agence officielle LANA, les chefs des tribus de Barka ont posé 3 conditions pour approuver le gouvernement d'union nationale: la protection de l'armée libyenne, la garantie de la répartition équitable des portefeuilles et la protection du gouvernement gouvernement sans le recours aux milices. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.